Bibles maintenant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Nous allons prier d'abord. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole et nous voulons y venir avec un cœur humble, disposé à nous laisser enseigner par toi. Nous te demandons que tu nous illumines par ton Esprit Saint. Conduis-nous. Nous sommes faibles et nous ne pouvons rien sans toi. Et nous savons que il faut l'Esprit de Dieu pour s'approcher des choses spirituelles. Nous te prions que tu nous remplisses, que tu nous conduises, que tu nous illumines pour que nous sachions comprendre et pour la gloire de ton nom. Amen. Donc Matthieu chapitre 3, on est dans une série dans l'évangile de Matthieu depuis quelques temps. On est au chapitre 3 et on va lire à partir du verset 13. Alors on a commencé avec le thème qui est celui du roi qui vient, le roi qui vient pour bénir son peuple. C'est le thème de l'évangile de Matthieu. Et Matthieu présente Jésus comme le roi qui devait venir, celui qui a été annoncé, le Messie promis. Et il s'adresse aux Juifs dans cet évangile. Et il démontre que Jésus est bien celui qui devait venir. Donc c'est pour ça que quand vous lisez l'évangile de Matthieu, il y a beaucoup de fois, vous allez trouver afin que s'accomplisse ce qui était écrit par le prophète, ce qui avait été annoncé par le prophète, parce que Matthieu cherche à chaque fois, s'adressant aux Juifs, qui connaissent la loi, qui connaissent l'Ancien Testament, eh bien, il cherche à connecter régulièrement tout ce qu'il dit sur la personne de Jésus à ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, on avait vu qu'il avait commencé avec la généalogie de Jésus pour montrer qu'il était de descendance royale, qu'il descendait de David. On a vu sa naissance virginale, comment Jésus est né, quel a été ce miracle que Dieu a accompli pour faire entrer son fils dans le monde. On avait vu l'adoration du roi avec les mages et les différentes attitudes que l'on pouvait avoir face à la venue de Jésus. Et puis, on avait vu aussi l'exil du roi, l'exil obligé vers l'Égypte, où Marie, Joseph et le petit enfant ont dû fuir parce que il y avait un autre roi terrestre, lui qui en voulait au roi des rois. Et puis, la semaine dernière, nous avons vu un peu le fait que Jean-Baptiste maintenant commence à présenter la venue de Jésus. Donc on a vu le héros du roi, c'était celui qui crie dans le désert, voici le roi vient préparer le chemin du Seigneur. Donc il était là pour préparer les cœurs et insistait sur le fait que le royaume de Dieu vient et que il fallait se préparer, notamment se repentir, changer catégoriquement, confesser ses péchés, croire en celui qui vient. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 13, les quelques versets restants du chapitre 3, verset 13 à verset 17. Il dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est là la parole de Dieu. Jusque-là, il était question, je crois, dans ce que nous avons lu, de la venue de Jésus, hein, de sa lignée royale, de sa naissance, et puis de ce message que Jean-Baptiste dit, il vient, il est là, il n'est pas loin, il approche. Hein. Et là, notre texte commence, « Alors Jésus vint de la Galilée ». Là, c'est la manifestation, on pourrait dire, hein, d'un public de Jésus. On va entendre les premiers mots, si on met à part l'évangile de Luc qui nous donne une petite tranche de l'enfance de Jésus quand il avait 12 ans, et où il dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Là, on a, si j'ose dire, les premiers mots de Jésus en tant qu'adulte lorsqu'il s'apprête à rentrer dans son ministère public. Et donc il vient de la Galilée. Donc cette fois, on pourrait dire que le roi, il est bien là, il est prêt à entrer dans son ministère. Et donc la scène, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est une scène qui est quand même majestueuse, hein, quand on pense à ce baptême de Jésus. On est passé du début du chapitre à cette voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, et qui crie « il vient » à cette voix qui vient d'en haut cette fois-ci. La Bible nous dit, hein, verset 17, « Voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. » Cette voix qui vient des cieux et qui dit « C'est lui, c'est mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est une scène que je trouve extraordinaire, qu'elle est belle, elle est concentrée sur vraiment la personne du Seigneur Jésus-Christ et sur la déclaration par Dieu lui-même qu'il est vraiment le roi qui vient. Donc Jésus, nous dit le texte, vient pour être baptisé par Jean. C'est pour cela qu'il vient vers Jean. Et lorsque Jean voit arriver Jésus, bien sûr, il s'oppose et il avance d'abord son indignité. Hein, lui qui avait dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. D'autres textes disent, je ne suis pas digne de délier ses sandales, même en me baissant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aucune place que l'on puisse avoir qui soit honorable face à lui. Eh bien, il avance son indignité en disant à Jésus, moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et toi, tu viens vers moi. Il est conscient que son baptême était insuffisant. Hein. Il dit lui-même que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, eh bien, il vous baptisera du Saint-Esprit. On verra ça un petit peu plus tard. Donc le but de son baptême était de servir de signe et d'attestation à une repentance véritable. Et donc il ne comprend pas, comme nous ne comprenons pas peut-être non plus, pourquoi Jésus vient le voir pour se faire baptiser. Le seul qui n'avait pas besoin d'être baptisé, celui qui vient pour se faire baptiser. Alors, il y avait, rappelez-vous, les Sadducéens et les Pharisiens, verset 7, je crois, voilà. Voyant venir à lui, Matthieu chapitre 3, verset 7, beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens, eh bien, Jean-Baptiste les repousse, hein, un peu, parce que ils ne viennent pas avec une bonne disposition, hein, à son baptême. Ils ne viennent pas avec un cœur repentant. Ils n'acceptent pas de confesser leurs péchés, c'est-à-dire de dire exactement la même chose que Jean-Baptiste dit. C'est ça, confesser. Hein. C'est accepter le verdict de Dieu sur ce qu'est le péché, sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est notre propre vie. C'est un petit peu... Et ces hommes, ils refusent cela. Et Jean-Baptiste dit, eh bien, ce n'est pas ainsi que vous pouvez passer par ce baptême. Mais quand ils voient venir Jésus... Là, il dit, ça c'est autre chose. Il dit, toi, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Pourquoi est-ce que tu viens te faire baptiser? Je ne vais pas te baptiser. C'est comme s'il dit, je ne veux pas te baptiser. Je ne peux pas te baptiser. Il n'y a pas de lien entre le fait de te baptiser et puis ta vie. Tu n'as jamais commis de péché. Hein. Et la Bible le dit, hein, que Jésus n'a jamais commis de péché. Il affirme clairement, je crois qu'on l'a dit ce matin, hein, Hébreux 4, verset 15, par exemple, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Il était sans péché. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, à la sortie, quelqu'un qui était de passage, mais il m'a dit, mais Jésus, quand même, il a péché. J'ai dit, oui, il s'est mis en colère. Dit, non, si Jésus avait commis un seul péché, il ne pourrait pas être le sauveur du monde. Il ne pourrait pas expier nos fautes. Il fallait un agneau sans défaut et sans tâche. Et certaines, il y a beaucoup de gens qui parlent autour du fait que Jésus est venu pour se faire baptiser. Certaines disent, mais c'est parce que certainement il y avait quelque chose, il y avait du péché qu'il est venu aussi pour se faire baptiser. Absolument pas. Donc le fait que Jésus vienne se faire baptiser n'a rien à voir avec un éventuel péché dans lui-même. Il n'a jamais, la Bible dit très clairement, commis de péché. Et on parle même de l'impeccabilité de Jésus pour exprimer le fait qu'il ne pouvait pas aussi péché. Il était impeccable, on pourrait dire sans péché, incapable de pécher de ce côté-là. Parce qu'il était, c'est vrai, homme, oui, mais il était aussi, on a dit ce matin, Dieu, fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, même nature, même essence que Dieu. Alors, pourquoi Jean-Baptiste vient-il se faire baptiser? Quel sens on pourrait donner ici à son baptême? Eh bien, on pourrait dire que on a une réponse dans la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste, qui n'est pas très très claire, mais qui permet quand même d'affirmer un certain nombre de choses. Regardez verset 15, il dit « Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » On pourrait dire que le baptême de Jésus participe à l'accomplissement de ce que Dieu demande. Le baptême de Jésus participe à l'accomplissement de ce que Dieu demande. Pour qu'on puisse comprendre cela, je vais relire le verset dans plusieurs versions. Par exemple, dans la version Martin, il dit « Et Jésus répondit, laisse pour le présent, car il nous est ainsi convenable d'accomplir toute justice. » Dans la version Parole de vie, il est dit, traduction Parole de vie, il est dit « Accepte pour le moment. » Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Dans la semeur, il dit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Et on pourrait dire que ce que Jésus est en train de dire ici à Jean-Baptiste, c'est qu'il est convenable de faire comme cela, parce que c'est la volonté de Dieu que ça soit fait comme cela. C'est vrai, il n'y a aucun péché, donc ça ne peut pas être un baptême de repentance. Il n'y a pas, on voit bien, il n'est pas dit que Jésus confesse son péché ici, il n'a jamais péché, mais il dit ici à Jean-Baptiste que pour le moment, il est convenable de procéder ainsi. C'est-à-dire que dans le plan que Dieu a fixé, il est important que nous fassions, et il dit même que nous fassions ainsi et que nous accomplissions ainsi toute justice, tout ce qu'exige, je vais dire, le plan rédempteur de Dieu. Et donc son baptême est l'expression d'une entière et pleine soumission à la volonté de Dieu. La réponse que donne Jésus ne fournit aucune explication technique, on pourrait dire, à Jean-Baptiste. Comment ce baptême peut être connecté à sa personne? Il n'y a pas de théologie, de cours de théologie qui est fait ici. On est d'accord? Il dit simplement qu'il faut faire ainsi. Et donc, laisse faire ainsi. Donc, il y a un appel à la soumission, tout simplement, à la volonté de Dieu. Donc, je suppose que Jean-Baptiste n'a pas tout saisi ce que contenait cette phrase de Jésus, comme nous ne saisissons pas tout non plus, mais il a compris qu'il devait agir d'une manière qui montre qu'il se soumet à ce qui est exigé à cet instant-là. Le baptême de Jean faisait partie du plan de justice de Dieu. Jésus lui-même dit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui, en Matthieu 21, chapitre 21, verset 32. Et ainsi donc Jésus s'est soumis à ceux qui étaient considérés par lui-même comme la voie de la justice. La voie qui permet d'accomplir tout ce que Dieu a établi dans son dessein de rédemption. Et donc la raison qui est donnée consiste à dire que dans sa sagesse, Dieu a décidé du comment les choses vont se passer, comment elles doivent se passer pour accomplir son plan, et que ce plan passe par l'administration du baptême d'eau à Jésus par Jean. Ce plan passait par l'administration du baptême d'eau de Jésus par Jean-Baptiste. Et on voit que Jean-Baptiste ne demande pas plus d'explications à cette explication peu claire, hein, on pourrait dire, de Jésus. La Bible dit, il ne lui résista plus. Il a compris dans ce que Jésus a dit qu'il fallait simplement se soumettre. Et je veux dire que le disciple de Christ ne doit pas résister à la volonté de Dieu. Il ne doit pas constamment demander des explications qui pourraient satisfaire son intelligence. Parfois, on peut, parfois, ça n'est pas possible. Parfois, ce que Dieu demande, c'est que simplement nous fassions confiance et qu'on ne résiste pas. D'accord ? Jean-Baptiste avait raison, si vous voulez, d'exister dans la compréhension qu'il avait de son propre baptême et de son propre ministère. Mais quand Jésus vient à lui, il y a quelque chose qui est différent dans ce baptême que Dieu lui-même a institué, qui échappe. Et Jésus dit, il faut que nous fassions ainsi. Et Jean-Baptiste ne résiste plus et il baptise Jésus. Donc son baptême, on pourrait dire, est l'expression d'une pleine et entière soumission simplement à la volonté de Dieu. Mais son baptême, on pourrait dire aussi, est l'expression d'une pleine et entière identification au pécheur. Le baptême véhicule toujours l'idée d'une identification. Le baptême tout seul, un baptême tout seul, plonge dans l'eau et on ressort, ça n'a pas de signification si ça n'est pas rattaché à une réalité. Sinon, ça veut dire que vous êtes entré dans la piscine, vous avez pris un bain à la piscine et vous êtes ressorti. C'est tout ce qu'on a fait. Et ça n'a pas plus de valeur que ça. Donc, le baptême véhicule toujours une identification à une réalité. Et le baptême de Jean, on le voit, se rattachait à la réalité de la repentance, de la confession des péchés pour le pardon. Il le dit, hein. Il dit c'est le baptême, et dans tous les évangiles, il est dit que le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Hein. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, au verset 11. Le baptême chrétien aussi, que vous avez eu, certains d'entre vous, eh bien, se rattache aussi à la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On ne se fait pas baptiser parce que ça fait partie d'un certain nombre de rites, et puis quand on arrive à un certain âge, il faut le faire. On se fait baptiser parce qu'on est un chrétien et que ce baptême renvoie à une réalité qui est bien concrète, qui est celle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et de l'union du chrétien par le Saint-Esprit avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez, il y a un rappel de la réalité qui est rattaché si j'ose dire, au signe, au geste que représente le baptême. Donc de même, ici, lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, eh bien, il va s'identifier à une réalité. Et à travers son baptême, je crois qu'il y a l'identification au pécheur. Il s'identifie au pécheur. En s'incarnant, Christ a revêtu la nature humaine, mais il ne s'est pas simplement identifié à l'homme juste en prenant un corps, en tant qu'homme simplement. Il a voulu participer à tout ce qui touche l'homme, tout ce qui atteint l'homme. Et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été rendu semblable à nous en toutes choses. Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux chapitre 4, verset 15, il dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses ». Donc, il a voulu s'identifier au plus près aux pécheurs. Il a accepté les limitations physiques du corps humain, il a éprouvé la faim, la soif, la fatigue. Et par son baptême, il s'identifie vraiment aux pécheurs. Et il s'identifie aux pécheurs en s'identifiant même à leurs péchés. Parce que ceux qui venaient avec un cœur repentant, confessant leurs péchés. Vous voyez, la question du péché et du pardon de péché tourne autour de ce baptême. Et Jésus vient en s'identifiant aux pécheurs, mais pas simplement aux pécheurs, il s'identifie jusqu'au péché lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » L'apôtre Pierre dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Donc Jésus s'est identifié vraiment aux pécheurs et aussi aux péchés. Et cette identification est en accord avec le plan de Dieu et propre à permettre, comme Jésus le dit, l'accomplissement de tout ce qui est juste, c'est-à-dire du plan rédempteur de Dieu. Il fallait que Dieu, devenu homme, s'identifie à l'homme en prenant un corps. Mais comme le dit l'Épître aux Philippiens, mais qu'il descende jusqu'à être identifié pleinement à ce qui caractérise le plus fondamentalement l'homme, c'est-à-dire le péché. Et en se faisant baptiser, on pourrait dire qu'il y a ici l'image de cette identification avec aussi l'homme. Et puis ce baptême aussi, troisièmement, est la préfiguration des souffrances à venir de Christ. Dans la Bible, Jésus lui-même dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Et cela renvoie, si vous lisez Marc chapitre 10, verset 38 aussi, cela renvoie vraiment à sa mort, à ses souffrances et à la croix. Et Jésus voit cela comme un baptême qu'il doit subir. C'est-à-dire qu'il va être immergé dans le plein jugement de Dieu contre le péché. Il va subir, la Bible dit, toute la colère de Dieu pour expier le péché. Et c'est comme un baptême. Je crois que le baptême en lui-même, l'expression baptême, quand on parle d'immersion, c'est une immersion, cela veut dire cela donne une dimension de plénitude, quelque chose qui est entier. Quand on plonge quelqu'un dans l'eau, il n'y a pas une seule partie de son corps qui n'est pas mouillé, tout est trempé. Et donc, c'est comme si Jésus dit, voilà, je vais tremper complètement jusqu'à avoir la tête couverte par le jugement de Dieu. Et le baptême qu'il est en train de prendre peut renvoyer à cette image de cette immersion qui vient et dans laquelle il va entrer pour expier le péché des hommes. De même que notre baptême de chrétiens renvoie au sacrifice que Christ a accompli, au jugement qu'il a subi, à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Puis on pourrait dire de même, le baptême que Jésus prend ici est une image qui anticipe déjà la souffrance et le baptême, ce qu'il qualifie lui-même d'ailleurs comme baptême, qu'il va subir aussi plus tard. Donc le baptême participe, on pourrait dire ici, comme on l'a dit, à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, en montrant que Jésus s'identifie, que Jésus s'humilie volontairement, qu'il s'identifie volontairement aux pécheurs, et que par ce baptême, il préfigure même déjà les souffrances à venir, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Mais on pourrait dire aussi, deuxièmement, que le baptême de Jésus permet l'identification claire du Messie. Le baptême de Jésus, permet l'identification claire du Messie. Si on regarde ce qui s'est passé pendant son baptême, si on lit dans l'évangile de Jean, par exemple, lorsque Jean ne relate pas de manière directe le baptême de Jésus. Les trois autres évangélistes le font, mais Jean ne le fait pas. Lui, il parle de ce qui s'est passé, hein, comment Jean voit l'Esprit qui vient sur Jésus. Mais Jean dit ceci, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Dans Jean chapitre 1, verset 31. Et il dit donc ici que le baptême d'eau avait pour but aussi de faire connaître à Israël Jésus-Christ, de révéler Jésus-Christ à Israël. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et son baptême d'eau n'est pas quelque chose qui vient de lui-même. Il dit un peu plus loin que celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Donc il a reçu ce mandat par Dieu lui-même et il dit que c'est afin que Jésus en tant que Messie soit manifesté à Israël. Et donc très clairement, le verset, je crois, associe au baptême d'eau, le baptême d'eau à la manifestation, à la révélation du Messie à Israël. Mais aussi le baptême d'eau devrait faire connaître le Messie à Jean-Baptiste lui-même. Toujours dans Jean chapitre 1, verset 33, il dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, Jean dit, voilà, « Je ne connaissais pas. » Bon, c'était son cousin, il avait six mois, plus âgé que lui. Certainement, bon, dans la famille, Marie étant la cousine d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ils avaient eu des connaissances. Elle lui avait certainement parlé de Jésus, mais en tant que Messie, vraiment, certainement, il ne le connaissait pas. Et même, un peu plus tard, la Bible dit que Jean était troublé par Jésus. Il a envoyé, quand il était en prison, il a même envoyé des gens pour questionner Jésus et lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Peut-être qu'il avait une conception, une vision de comment les choses devraient être quand Jésus, quand le Messie allait venir. Donc, c'était pas quelque chose de tout à fait évident pour lui. Mais on comprend quand même que, dans ce que la Bible nous dit ici, que le baptême d'eau, ici, de Jésus avait aussi pour vocation de faire connaître le Messie à Jean-Baptiste lui-même, parce que c'est lui, après, qui guide les gens vers le Messie. Donc il fallait que lui, il ait une connaissance de qui il est. Et Dieu lui dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et donc le baptême d'eau de Jésus, pourrait dire, a été l'événement au cours duquel Dieu a révélé à Jean qui est celui qui a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Et le signe par lequel il le reconnaissait, c'était la venue sur lui du Saint-Esprit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Il dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste dit, au verset 32, Jean 1, verset 32, il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Il fallait cette manifestation pour qu'il puisse être convaincu qu'il est vraiment le Messie et qu'il puisse rendre lui-même ce témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et nous lisons donc dans notre texte, on revient à Matthieu chapitre 3, il est dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et donc, on a l'impression que le baptême de Jean semble être orienté vers cet événement, vers la révélation du Messie. Hein. C'est peut-être, on a l'impression que c'est le point culminant, là, ici, du ministère de Jean, de pouvoir connaître vraiment qui est ce Messie par cette manifestation ici spectaculaire du ciel qui s'ouvre et de l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe et qui reste sur Jésus. C'est vraiment l'onction ici, on pourrait dire, du Fils de Dieu, du prophète, qui est maintenant loin pour accomplir la mission que Dieu l'envoie accomplir. C'est ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et certainement, Jean connaissait tous ces passages, et quand il voit ça, il connecte dans son esprit, ces choses prennent une forme particulière. Isaïe 61, verset 1, l'Esprit, le passage que Jésus lui-même, il a cité quand il est rentré dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et cette onction était nécessaire. C'est pour que Jean-Baptiste puisse dire « c'est lui », pour que les apôtres même puissent le dire aussi. Si vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Pierre rencontre Corneille, il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » C'est vraiment celui que Dieu a choisi, il l'a oint, il l'a équipé pour qu'il puisse accomplir pleinement son ministère. Et après, l'apôtre Pierre dit, voilà, il a fait en faisant beaucoup de guérisons, etc., etc. Et donc, le Messie a été, si vous voulez plutôt, ce baptême a été l'événement au cours duquel, eh bien, Dieu a révélé vraiment qui était de manière claire, qui était le Messie. Et le Messie est aussi, je voudrais dire, identifié par la nature du baptême qu'il administrera. Jean, Matthieu chapitre 3, verset 11, Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est ce que Jésus avait dit. Celui sous lequel tu verras descendre l'Esprit, c'est lui qui va baptiser. Donc il n'y a pas d'autre moyen d'être baptisé de l'Esprit, sinon par Jésus-Christ lui-même et Jésus-Christ lui seul ici. Et Jean établit un contraste très net entre la puissance des deux ministères et il établit en rapport avec le baptême. Il dit, moi je vous baptise d'eau, et lui, il vous baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Il y a autant de différences entre les deux qu'il y a de la différence entre l'eau et l'Esprit. Un élément naturel et un élément spirituel ici. L'un est un baptême d'eau, l'autre est un baptême du Saint-Esprit. L'un est fait d'éléments naturels, l'autre il est fait d'éléments purement spirituels. L'un est administré par un simple mortel, et l'autre par le Dieu éternel qui s'est fait homme, le Fils de Dieu Jésus-Christ, ici. L'un est une image, l'autre est la réalité. L'un est temporel et ponctuel, purement ponctuel, le baptême d'eau, et le baptême du Saint-Esprit est éternel. Parce que la Bible dit, voilà, le Saint-Esprit, Jésus dit dans l'évangile de Jean, qu'il viendra, qu'il demeurera avec vous, comment ? Éternellement. Donc, Jean dit, quand il dit « il est plus puissant que moi », il ne veut pas dire qu'il est plus grand, plus costaud, plus musclé. Il est en train de dire que par son ministère ministère aura une portée bien supérieure au ministère que je suis en train d'accomplir. Il sera plus puissant que moi parce que moi, je vous baptise d'eau et lui, il vous baptise du Saint-Esprit. Et donc, il affirme ainsi que seul Jésus peut administrer ce baptême. Et ce baptême de l'Esprit, la Bible dit que l'on l'a quand on se convertit, quand on vient à Jésus-Christ. L'apôtre Pierre disait, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit se reçoit, le baptême du Saint-Esprit, eh bien, vient quand on se convertit, quand on se tourne vers Jésus-Christ. Et donc, quand on croit, quand on place sa confiance en lui, quand on se repent, qu'on fait ses péchés, on croit que Jésus-Christ est le seul chemin, celui que Dieu a envoyé. La Bible dit que quand on se repent ainsi, eh bien, Dieu donne son esprit. Et on est ainsi baptisé du Saint-Esprit. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit tant que vous n'avez pas eu dans votre vie une manifestation particulière qui montre que vous avez vraiment reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, il est impossible d'appartenir à Christ, d'être un enfant de Dieu, sans avoir été baptisé du Saint-Esprit, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et j'aime bien cette expression du baptême parce qu'elle montre vraiment cette plénitude. On est plongé, non pas dans l'eau, mais en Dieu lui-même, en Jésus-Christ, quand on se convertit. On devient un enfant de Dieu complètement, complètement. L'Esprit est donné avec une plénitude. Enfin, je voudrais terminer troisièmement en disant que le baptême de Jésus implique aussi, on le voit dans ce passage, les trois personnes de la Trinité. Et voici, regardez notre passage, verset 16. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est une scène, je l'ai dit tout à l'heure, majestueuse, où les trois personnes de la Trinité sont réunies. Dieu le Fils, qui est manifesté ici en chair, Dieu le Saint-Esprit, dit qu'il descend sous forme d'une colombe, et puis Dieu le Père, qui du haut du ciel fait entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Les trois personnes de la Trinité participent à l'investiture, on pourrait dire, à l'inauguration du ministère de Jésus-Christ. Les trois sont étroitement impliqués dans la question du salut de l'homme. Il y a un auteur qui s'appelle J.C. Ryle, il a dit ceci, il a dit « C'était l'entière Trinité qui, au début de la création, disait « Faisons l'homme ». C'était encore l'entière Trinité qui, au début de l'Évangile, semblait dire « Sauvons l'homme ». Il dit que les trois personnes de la Trinité sont réunies sont présentes ici dans le plan salvateur de Dieu. Et c'est la première fois que la voix de Dieu dans le Nouveau Testament se fait entendre aussi ainsi. La déclaration du Père est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu le Père lui-même, dit la Bible, déchire le ciel pour attester que Jésus est bien le Messie promis. Il est bien celui qui vient de Dieu. Celui-ci, il dit, est mon Fils bien-aimé. Qu'il est le roi qui est venu pour bénir son peuple. Il est bien le seul médiateur pourvu par Dieu. Dieu atteste au début du ministère de Jésus que toute son affection est portée sur lui. Il est, on l'a dit tout à l'heure, le Fils éternel de Dieu. Matthieu s'efforce de montrer que quand Jésus, toutes les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent, pour que les Juifs puissent croire qu'il est vraiment celui qui est envoyé par Dieu. Et les prophéties s'accomplissent en lui, c'est vrai. Pierre, dans sa prédication qu'on a lue tout à l'heure à la Pentecôte, affirme que les signes et les prodiges opérés par Jésus étaient le témoignage de Dieu concernant Jésus-Christ. Et ils étaient ce témoignage-là. Paul déclare que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Il dit, la résurrection déclare de manière puissante que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Mais ici, on a Dieu lui-même. qui déchire le silence du ciel pour dire publiquement, avec sa propre voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il déclare sa filiation divine. Il déclare qu'il est entièrement satisfait en lui. Et Dieu le Père approuve Dieu le Fils pour tout ce qui est en rapport avec la rédemption de l'homme. Plus tard, on a lu ce passage tout à l'heure aussi dans Matthieu chapitre 17, lors de la transfiguration. Il est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles, la deuxième fois donc, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et donc Dieu le révèle, Dieu dit c'est lui, dit toute mon affection est en lui, écoutez-le. Nous avons donc là ici une invitation à nous tourner vers Jésus et vers Jésus seul. Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre personne qu'il faut écouter. Aucune personne à part lui. C'est lui, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui que vous devez écouter. La porte, elle est vraiment étroite. Une seule personne, si on veut entrer dans le plan rédempteur de Dieu. Je termine par ces conclusions. Qu'est-ce que l'on peut dire de manière pratique pour nous ici ce matin? Mais je crois que l'attitude que l'on doit avoir, c'est celle de Jean-Baptiste. Alors on observe une scène comme Jean-Baptiste qui concerne Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père. Qu'est-ce qu'on peut dire pour nous? Mais je crois qu'on peut faire comme Jean-Baptiste. Ne pas résister, contempler et témoigner. Jean-Baptiste, la Bible dit, il ne lui résista plus. Et là, il dit qu'il a vu dans l'évangile de Jean, il dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il a contemplé. Et rempli de ses vérités, eh bien, il a témoigné. Il dit, j'ai témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons lu ce verset tout à l'heure dans Jean chapitre 1 et au verset 33. Donc c'est ce que nous sommes appelés à faire, à ne pas résister à ce que nous dit la parole. Jésus est le seul chemin. Le chemin du salut exige toujours la soumission à la volonté de Dieu. Il faut, comme Jean-Baptiste, laisser faire le plan de Dieu, l'accepter, se repentir quand la parole de Dieu nous dit qu'il faut nous repentir, confesser nos péchés quand elle nous dit qu'il faut confesser aussi nos péchés et laisser Dieu agir pour voir comment il donne son esprit, comment il fait pénétrer ces choses en nous. Je voudrais dire aussi que le baptême est l'expression d'un commencement et non d'un aboutissement. Toujours, quand on parle de baptême de l'air, par exemple, ça veut dire qu'on n'a jamais... On n'est jamais monté dans un avion et que pour la première fois, on va y être et on va être transporté dans les airs. Ça va être un baptême de l'air. Quand on parle de baptême de feu pour un militaire, ça veut dire qu'il n'a jamais participé à aucune guerre. Et là, il va être sous le feu des balles. Donc, c'est un baptême pour lui. Il y a toujours cette idée d'inauguration et de commencement. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé aussi son ministère, par le baptême. C'est le premier acte de son ministère qui nous a été mentionné. Et c'est aussi le premier acte exigé par le Seigneur pour la mission, dans la mission qu'il confie à l'Église. Rappelez-vous, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants. » C'est-à-dire que la première chose, on fait des disciples, les gens viennent au Seigneur et ils sont baptisés. Alors faire des disciples, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 25 ans qu'on soit à maturité. Un disciple, c'est un chrétien, tout simplement. Quelqu'un qui se convertit véritablement est un disciple de Christ. Il a besoin de grandir, mais il est quand même un disciple, tout comme les disciples avaient besoin de grandir. Quand au début, leur connaissance de Christ n'était pas extra-extra, ils se trompaient beaucoup, mais ils avaient besoin de mûrir. Donc le disciple, c'est celui qui se convertit, qui devient véritablement un enfant de Dieu. Et quelle est la première chose qui est exigée pour un disciple? C'est qu'il soit baptisé. Parce que le baptême d'eau est l'image, est le signe, le sceau du baptême du Saint-Esprit que Dieu donne quand la personne se convertit. Et c'est toujours au début. On n'obtient pas le baptême du Saint-Esprit à la fin de la vie chrétienne. C'est par là que ça commence. On reçoit l'Esprit de Christ. Et donc, ce qui renvoie à cette réalité ne peut pas se situer à la fin de la vie chrétienne. Et donc, le baptême d'eau doit prendre sa place au début de la vie chrétienne, avec un écart minimum entre le moment où on se donne à Christ et le moment où on se fait baptiser. Des années, c'est trop. Des mois, c'est trop. Si on regarde par rapport à ce que l'on voit dans l'Écriture. C'est vrai qu'à l'époque, les gens, quand ils se faisaient baptiser, il y avait beaucoup de risques. Alors aujourd'hui, c'est très facile de dire « je suis chrétien ». On peut se promener en disant « je suis chrétien, je veux me faire baptiser ». Donc, c'est pas toujours évident. Même à l'époque de l'apôtre Pierre, rappelez-vous de Philippe, hein, Simon le magicien, qui avait été baptisé par Philippe, et il y avait rien de réel. Alors c'est pour cela que parfois, il y a un petit peu de temps, parce qu'il faut, il faut s'assurer qu'il y ait des choses. Mais, néanmoins, il n'en demeure pas moins vrai que le baptême se situe, est l'expression d'un commencement, jamais d'un aboutissement. Alors quand quelqu'un dit, moi j'attends d'être bien pour être baptisé, j'attends d'être mûr, d'avoir fait beaucoup de progrès, voilà, il me faut des années pour cela, et puis je me ferai baptiser, ce n'est pas le message de l'Évangile. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Faites des disciples en les baptisant. C'est le premier pas de la vie chrétienne. Et nulle part dans l'Écriture, on trouve des chrétiens qui ne sont pas baptisés. Ça n'existe pas. Pas dans la Bible, en tout cas. Sauf le brigand sur la croix. Amen. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller sur la croix, si vous voulez. Si vous ne voulez pas être baptisé. Il faut être dans les mêmes conditions. Mais sinon, on lit dans la Bible, Actes chapitre 2, verset 41, il dit, ceux qui écoutèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui crurent furent baptisé. C'est le début de la vie chrétienne. Ce n'est jamais la fin de la vie chrétienne. Et puis, on ne peut plaire à Dieu en dehors de Jésus-Christ. On ne peut plaire à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Dieu déclare Jésus comme son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Ça veut dire qu'il n'y a aucune affection de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Toute son affection, la totalité de son affection étant Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons bénéficier de l'affection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut ? Être en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul parle beaucoup d'être en Christ. Je veux être trouvé en lui, dit-il, non avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de la foi, hein. Il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Si vous voulez jouir de la bénédiction de Dieu, il faut être en Christ. Les pharisiens, les sadducéens ont voulu prendre un autre chemin. Nous savons Abraham pour père, rappelez-vous ce qu'ils ont dit au verset 7. Nous avons, c'est ce que Jean leur dit, ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Parce que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc ils avaient cru que leur descendance abrahamique leur accordait la faveur de Dieu. Et Jean dit non, il faut confesser vos péchés. Il faut demander pardon. Il faut croire en Jésus, parce que c'est en lui que Dieu a mis toute son affection. Paul affirmera aux Éphésiens, car par lui, les uns et les autres, par lui, par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. En Romains chapitre 8, il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses ? Comment ? Avec lui. Vous prenez les évangiles, il n'y a jamais possibilité d'avoir quelque chose en dehors de Christ. Et Romains 11, 36 dit, c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. À lui donc soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que vous n'avez aucune possibilité d'arriver à Dieu. Aucune. Vous demeurez sous la colère de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure parce qu'il n'est pas dans le Fils. Et parce que toute l'affection de Dieu est dans le Fils. Et uniquement dans le Fils. Et donc, le seul espoir, mais c'est un sûr espoir, c'est de placer votre confiance en Jésus-Christ, en confessant vos péchés, en demandant pardon, en demandant à Dieu de vous sauver. On entre dans le royaume de Dieu, la Bible dit, par la nouvelle naissance, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu, que nous apprenions à contempler les vérités qui concernent Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On a lu tout à l'heure, hein, Dieu nous a parlé par qui ? Par le Fils. Par le Fils. Celui qui honore le Fils honore aussi le Père. Alors cessons de résister, contemplons, faisons nôtre toutes ces vérités que nous connaissons sur Jésus-Christ, que cela puisse réchauffer nos cœurs, nous pousser à l'adoration et aussi au témoignage, afin qu'on soit comme Jean qui a dit, je crois que c'est au verset 34 du chapitre 1, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu es venu jusqu'à nous. Tu as pris un corps, pas simplement pour prendre un corps, mais afin de vivre une vie juste, afin de l'offrir en sacrifice. Tu t'es identifié à nous en toutes choses. Tu es devenu péché, toi qui n'as pas connu le péché, mais tu es devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Tu as été loin du Saint-Esprit pour accomplir pleinement l'œuvre de notre salut. Nous te remercions, notre Seigneur Jésus-Christ, pour ton obéissance, pour ton humilité. Et nous te prions que, par ton Esprit que tu fais habiter dans ceux qui se tournent vers toi, que tu nous fasses te connaître davantage. Que nos pensées puissent être tournées vraiment vers toi, que nous apprenions à contempler ta face afin d'être transformés de plus en plus en ton image. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas encore dans ta bergerie afin que tu les attires. C'est toi qui attires, c'est toi qui suscites la foi, c'est toi qui l'amène à perfection. Et nous te prions afin que tu agisses et que tu suscites la foi, que tu attires les âmes à toi aujourd'hui même, afin qu'elles deviennent tes enfants. Et nous te prions pour ceux peut-être d'entre nous qui résistons, qui peut-être nous disons chrétiens, mais qui résistons à cette ordonnance du baptême. Que ton exemple soit, ton baptême soit un exemple. Et que ton esprit touche les cœurs pour convaincre que le baptême n'est pas l'aboutissement d'une vie, mais se situe au début d'une vie chrétienne. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu agisses toi-même dans les cœurs. Merci pour ta parole et ce que nos faibles mots ont pu exprimer, nous te prions de les approfondir dans nos cœurs par ton esprit même. Guide-nous chaque jour de notre vie, en ton nom et pour ta seule gloire.